Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui
à une étude, une analyse des racines historiques du national-socialisme à partir notamment de deux ouvrages, donc le classique de George Moss, un ouvrage donc publié une première fois en 1964 et qui s'intitule Les racines intellectuelles du Troisième Reich, la crise de l'idéologie allemande et qui a été republié aux éditions Point en 2006, et on va également parler, alors là pour le coup, plus pour la deuxième partie de l'émission, d'un numéro de la revue d'histoire de la Shoah, Les racines intellectuelles de Mein Kampf, qui traite
des influences idéologiques de Hitler, quoi, essentiellement. Quoi. Certaines parties se recoupent avec l'analyse de Moss, quoi.
Voilà, et justement, donc, pour cette émission, donc, nous sommes avec Paul, de la critique de la valeur, et avec qui on a déjà fait des émissions autour de la question de la destruction des Juifs d'Europe et des débats historiographiques sur cette destruction des Juifs d'Europe, donc qui s'est opérée entre 1933 et 1945 sous l'égide du national-socialisme. Et dans cette émission, qui est donc complémentaire, on cherche à comprendre quelles sont voilà, les racines historiques du national-socialisme avant même son accession au pouvoir, puisque aujourd'hui, on va couvrir une période qui va du 19e siècle, globalement, à peu près du milieu du 19e siècle, jusqu'à la publication de Mein Kampf en 1925. Et dans une autre émission, on traitera vraiment de l'ascension électorale du nazisme, de sa constitution d'un parti de masse, puisqu'en 1925, le parti nazi est à peu près quantité insignifiante. Mais il s'agit dans cette émission de comprendre qu'est-ce qui, au-delà de la conjoncture des années 1920-1930, la défaite de 1918, l'hyperinflation, la République de Weimar, la Révolution allemande de 1918, la menace révolutionnaire en Allemagne présente de à peu près de 1918 à 1923, la crise de 1929, donc tous ces événements économiques, sociaux, politiques qui vont permettre l'accession au pouvoir du nazisme, au-delà de ça, il y a un fond idéologique qui va se mettre en place au cours du 19e siècle et qui va progressivement être diffusé dans la population, c'est ce que raconte George Moss, et qui va finalement être un peu la condition idéologique, la précondition idéologique, entre guillemets, de l'adhésion d'une partie relativement importante de la population allemande au national-socialisme, ce qui va permettre au national-socialisme ensuite de se lancer dans des processus impérialistes, de destruction de la classe ouvrière, de destruction de la démocratie, même bourgeoise, même parlementaire, et évidemment la destruction des Juifs d'Europe.
Un des points de départ pourrait par exemple être la question, souvent on dit « oui mais la France était plus antisémite en 1900 que l'Allemagne ». Et si on regarde probablement les faits juste après l'affaire Dreyfus, on pourrait effectivement penser ça. Et malgré ça, c'est quand même en Allemagne qu'on a trouvé une adhésion très large à l'antisémitisme et à l'antisémitisme éliminatoire. Donc voilà, du coup, c'est intéressant de revenir en arrière pour essayer de comprendre quel est le soubassement de l'antisémitisme allemand et de l'idée de la nation allemande, qui fait qu'effectivement, la conjoncture politique autour de l'affaire Dreyfus était plus virulente qu'à ce moment-là en Allemagne. Mais malgré ça, c'est quand même en Allemagne, il y a quand même quelque chose de particulier dans ouais, bon, on en parlera, mais surtout dans l'idée de ce que c'est la nation et le peuple.
Oui, justement, un des objectifs de cette émission, c'est aussi de réfléchir à une vieille question en histoire, qui est celle de la Sonderweg, je prononce très mal probablement, mais cette idée qu'il y aurait une trajectoire spécifique de l'Allemagne à partir du 19e siècle, qui aurait conduit de manière plus ou moins logique, linéaire, nécessaire, au national-socialisme. Donc il y a tout un tas de débats historiographiques, des gens qui, comme Goldhagen, qui définissent vraiment l'idée que l'Allemagne a vraiment une place exceptionnelle dans l'histoire de la modernité et que c'est cette trajectoire exceptionnelle avec des caractéristiques très particulières qui explique voilà, le national-socialisme, son arrivée au pouvoir et la destruction des Juifs d'Europe. Et puis d'autre part, dans l'historiographie plus récente, il y a eu des tendances, par exemple comme chez Oded Heilbronner, qui pense plutôt qu'en réalité, cette spécificité allemande, elle se serait faite plutôt à partir de la défaite de 1918, et qu'en réalité, l'antisémitisme n'aurait pas joué un rôle si important que ça dans l'ascension au pouvoir du nazisme, et que jusqu'en 1932... les choses auraient pu évoluer notamment. Donc on voit qu'il y a quand même des positions assez antagonistes, hein. C'est-à-dire d'une part Goldhagen qui dit que le national-socialisme était presque inscrit dans l'histoire allemande depuis le Moyen-Âge, et puis d'autre part des historiens qui relativisent extrêmement fortement cette spécificité allemande. Donc bon, on va essayer de trouver une voie
un chemin médiane, ouais.
Voilà, c'est ça, dans cette émission, notamment dans une perspective un peu de comparaison. On va parler du coup beaucoup d'idéologie, en fait, de l'idéologie Völkisch et aussi de voilà, tout ce qui a pu influencer l'idéologie antisémite allemande, l'idéologie nationaliste, raciste, à partir du 19e siècle. Et puis on finira voilà, sur la question sur les racines un peu plus qui datent plutôt du 20e siècle, de Mein Kampf, avec les protocoles des sages de Sion, les écrits de Gottfried Feder. L'influence de Wagner et du cercle de Bayreuth, etc. Alors, peut-être pour commencer, on peut d'abord tenter de définir ce que c'est que l'idéologie Völkisch, qui est quand même un point de départ, je pense, important, pour comprendre ce qui est peut-être pas exceptionnel, mais qui est spécifique quand même à l'Allemagne, c'est-à-dire que des idéologies nationalistes, il y en a aussi en France, en Espagne, partout, mais il y a quand même une spécificité allemande à cette idéologie nationaliste.
Ce qu'on voit d'ailleurs dans la traduction, dans le terme, on utilise en français le terme allemand, Völkisch, qui vient du folk, donc du peuple, mais personne traduirait ça en français en disant on parle de l'idéologie du peuple ou de quelque chose comme ça, parce que ça serait totalement mal compris. Parce que justement, il y a une notion du peuple en Allemagne qui est, et du nationalisme, qui est quelque chose quand même un petit peu différent d'en France, quoi. On peut l'attacher au symbole du droit du sol et du droit du sang, qui est pas seulement un symbole, mais qui est la pratique judiciaire, mais qui traduit quelque chose de plus profond. Effectivement, l'idée, après la Révolution française, on pouvait adhérer, adhérer à la République. Et si on adhère à ces principes, on peut devenir aussi, on peut le devenir. Alors que dans le nationalisme allemand, on ne peut pas devenir allemand. On l'est ou on ne l'est pas. Et quand on l'est, c'est une espèce de chose profonde et mystifiée beaucoup aussi. Mais on ne peut pas adhérer à ça. Du coup, aussi, ça prête évidemment le chemin pour aller vers des idées eugénistes, scientistes, quoi, aussi. Donc de considérer ça comme être dans le sang, quelque part dans le corps, dans l'âme ou dans le corps, quoi. Il y a vraiment cette idée du sang et du sol allemand, quoi. Quand même lié à la géographie aussi. Mais après, il y a plein d'exemples historiques. Les Allemands qui ont vécu 10 siècles en Roumanie sont restés allemands pour les Allemands. Et en 1989, après la chute du mur, ils ont eu un passeport allemand, alors que les autres Roumains n'avaient pas la possibilité de voyager. Eux, ils pouvaient tout de suite retourner en Allemagne. Parce qu'il y a cette idée que même 25 générations plus tard, si les parents étaient allemands, ben les enfants sont allemands aussi. Et on le voit dans le contraire, les Turcs aujourd'hui en Allemagne, les Turcs de troisième génération sont toujours Turcs. On ne devient pas allemand. Maintenant, ça s'est un tout petit peu assoupli depuis une dizaine d'années, après le gouvernement Schröder Fischer, ils ont un petit peu assoupli l'accession à la nationalité, mais fondamentalement, et ça forme un autre concept de la nation, parce qu'il y a du coup, il y a des corps étrangers, tu peux être là, tu peux adhérer à tout, tu peux travailler comme un Allemand, si on veut prendre ça comme une des valeurs les plus sublimes dans l'idéologie de l'Allemagne d'aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que tu peux être Allemand, c'est une conception de la nation qui est différente.
Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on ne peut pas faire une opposition entre qui est parfois faite, je pense, abusivement entre une espèce de bon nationalisme français qui serait inclusif parce qu'en vrai, si on regarde les différentes lois de nationalité, certes, elles sont beaucoup plus généreuses qu'en Allemagne, elles sont basées sur le droit du sol, mais il y a des gens qui n'ont jamais pu devenir français. Donc en gros, pour devenir français, globalement, jusqu'à une période assez tardive, il faut être blanc. Voilà. Donc jusqu'à 1945, en gros, il faut être blanc, européen. Donc, bon, c'est une générosité déjà assez limitée quand même. Donc c'est lié à l'héritage de la Révolution française, ça c'est sûr. Mais après, il y a eu des moments aussi de xénophobie très forte dans la Révolution française, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une naturalisation très facile les premières années, et à partir du moment où ça a été la guerre généralisée contre l'Europe, là il y a eu des vagues de xénophobie, il y a eu des gens qui ont été accusés d'être du parti de l'étranger... Et puis, il y a une histoire de la xénophobie en France très forte, hein, comme l'a montré par exemple Gérard Noiriel dans tous ses travaux sur le 19e siècle et le 20e siècle en France. Après, ceci dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des lois de naturalisation, particulièrement à partir de 1889 et en 1927, qui permettaient à des gens européens, s'entend, de devenir de manière relativement facile français, pour des raisons en fait, principalement démographiques. C'est que la France... a commencé un déclin de la natalité beaucoup plus tôt que les autres pays, à partir du milieu du 19e siècle. Et donc, bon, pour des raisons militaires particulièrement, comme la population est un facteur très important des États modernes qui repose sur la conscription de masse, c'est sûr qu'en France, il y a eu des conceptions effectivement plus ouvertes de la nationalité, mais vis-à-vis des Européens. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cas allemand, c'est que même vis-à-vis des autres Européens, voilà, il n'y a jamais eu cette ouverture, et aussi, bon, un autre facteur, je pense, important, c'est le fait que ça n'a jamais été trop un pays d'immigration, ou en tout cas un pays d'immigration assumé, c'est-à-dire voulu. Il n'y a jamais eu de politique d'immigration particulièrement accueillante, on va dire, vis-à-vis des immigrés. Et après, peut-être un dernier aspect, et là on arrive vraiment sur l'idéologie Völkisch, je pense, c'est que l'unification française n'a pas été un problème. Enfin... Si, elle a été un problème dans le sens où ça a été un processus de nationalisation des sociétés, comme le dit Gérard Noiriel, qui a pu être violent, notamment dans tous les périphéries de la France, comme l'Ariège, la Corse.
Dans la création de la langue, par exemple, l'unification de la langue française, je dirais, a été faite par l'interdiction de langue régionale.
Et puis il y a aussi, par exemple, en Ariège, l'État français s'est approprié les forêts, ce qui a entraîné une espèce de guerre de basse intensité qu'on a appelée la guerre des demoiselles. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire que le processus de centralisation, de nationalisation des sociétés qui aujourd'hui composent la France métropolitaine s'est fait tranquillement. Mais c'est vrai que la différence avec l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu, du point de vue des nationalistes français, de frustration, de... unification qui arriverait trop tard ou qui se ferait pas complètement. Alors que une des racines de l'idéologie Völkisch, qui prend, je pense, on peut dire, ses racines, bon, un petit peu dans le romantisme allemand de la fin du XVIIIe siècle, l'idée que finalement il y aurait quand même une espèce de communauté linguistique allemande, donc c'est quelqu'un comme Herder qui du coup développe un petit peu cette idée. Et puis il va y avoir, donc ça, Mauss en parle, les frustrations qui résultent des suites de ce que. On a appelé, je pense rétrospectivement, la guerre de libération nationale allemande, donc contre l'occupation napoléonienne, de 1813 à 1815, et qui aboutit donc au congrès de Vienne, qui ne donne pas, qui est loin de donner à l'Allemagne une unité qu'auraient souhaité ces nationalistes qui avaient forgé leur nationalisme contre l'occupation napoléonienne, en référence notamment au Saint-Empire romain germanique, qui avait été aboli par Napoléon en 1806. Eh bien, il y a eu une frustration que le congrès de Vienne, finalement, morcelle l'Allemagne, la découpe entre la Prusse, l'Autriche, et voilà, tout un morcellement de petits États, catholiques, protestants. Et c'est vrai que c'est à partir de là qu'il commence à y avoir une conception de la nation qui est aussi liée à ces circonstances qui est que, comme cette nation, elle n'existe pas politiquement. La nation française, elle existe politiquement. Il n'y a pas besoin de postuler son existence. On peut évidemment la légitimer, la renforcer par des mythes, nos ancêtres les Gaulois, etc. Mais la nation allemande, elle n'existe pas politiquement. Donc, pour la faire exister, eh bien, les idéologues Völkisch vont se référer non pas aux Allemands comme une espèce de communauté imaginaire, pour reprendre les mots de Benedict Anderson, une communauté imaginaire fondée sur une conception mystique de la nation. Alors au début, qui n'est pas raciale, ce qui est intéressant, c'est que ça devient racial ensuite, mais cette idée que finalement, il y aurait une unité spirituelle et mystique des Allemands, une unité qui serait liée notamment au fait qu'ils sont inscrits dans un certain paysage. Et c'est là où on voit les liens avec le romantisme allemand, c'est-à-dire que les Allemands sont définis par une communauté spirituelle et mystique en lien avec une nature qui serait elle-même allemande.
Voilà. Oui, il y a une grande accent mis sur la nature, sur la forêt, la plaine, le brouillard, et qu'on va retrouver dans la musique de Wagner, que tu vas retrouver dans le romantisme, et dans les auteurs romantiques, dans la littérature, et tout ça, et qui est très important. L'idéologie Völkisch est très liée à la terre, quoi. Il y a cette expression, le Blut und Boden, quoi. C'est le sang et la terre, quoi. Ce sont les fondements de cette idéologie-là, quoi. Et avec une idée qu'il y aurait quelque part un peuple originel, quoi. Là, du coup, ils vont se sortir toutes ces histoires sur les Aryens. Quand on découvre les parallèles avec le sanskrit, langue qui vient de l'Inde, et donc on va parler des Aryens comme étant le peuple originaire de tout ça, qui est de la mythologie. Il n'y a pas un foyer originaire d'où tout ça est né, quoi. Mais qui est très important dans l'idéologie Völkisch, quoi.
Oui, c'est vrai, il y a cette idée des origines, je pense, qui est liée au fait que voilà, c'est un nationalisme contrarié, donc on va chercher la référence dans un passé originel où là, effectivement, cette communauté pouvait exister. Alors, donc, effectivement, on va remonter aux Aryens, donc qui seraient soi-disant un peuple originaire de l'Inde.
En Allemagne, on ne dit pas indo-européen, on ne parle pas des langues indo-européennes, on parle des langues indo-germaniques. Et en Europe, on parle des langues indo-européennes.
Oui, c'est ça.
Mais c'est assez drôle, ce petit truc de traduction. En allemand, c'est la langue indo-germanique.
Et puis après, il y a évidemment les Germains. Voilà. Donc il y a toute une réappropriation par les idéologues Völkisch à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, du livre de Tacite. Évidemment, c'est complètement décontextualisé parce que Tacite, comme l'explique Mauss, il écrit ce livre où il décrit soi-disant les Germains. En fait, c'est pour faire une critique de Rome. Donc c'est de la propagande en fait. C'est pour critiquer la décadence soi-disant des Romains qui seraient plus assez virils, etc., etc. Et donc, lui, il va aller chercher... C'est une critique récurrente, hein, on va chercher un autre peuple dont on loue les qualités viriles contre l'effémination, la décadence, etc., etc. Et donc, les idéologues Völkisch vont prendre ça pour argent comptant et vont s'imaginer les Germains comme un peuple basé sur des clans, sur une homosociabilité virile. C'est un peuple de guerriers aussi, donc qui est enraciné aussi dans une terre, donc il y a un peu cet imaginaire du paysan et du guerrier, en fait, qui sont vraiment des figures centrales de l'idéologie Völkisch et qui, finalement, fondent à la fois l'idée que la nation allemande, elle est fondée sur un sol, sur une population en lien avec un sol particulier, avec une nature particulière, et en même temps, fondée sur des valeurs particulières, guerrières, et puis aussi des croyances spirituelles. Donc là, il va y avoir la redécouverte du soi-disant culte du soleil, il va y avoir une apologie du paganisme.
Oui, on va voir ça assez fortement, ça va traverser, ça va continuer jusque dans le nazisme, quoi. On le dit surtout pour Himmler, qui apparemment était très très spiritualiste, quoi. Pour les SS, ils avaient imaginé faire leur culte dans un château, une forme particulière, donc tous les liens à la vénération du soleil, du solstice et toutes ces choses-là, quoi. Et qui cherchent en fait une religion antérieure au christianisme. Donc ça, c'est l'idée de revenir encore une fois à cette idée d'un peuple originel, une langue originelle, et du coup aussi une religion qui serait antérieure. Le christianisme serait déjà un petit peu judifié et du coup déjà pourri. Et donc, il faudrait revenir à une religiosité antérieure, mais qui aussi est liée à la nature. Ça aussi, je pense, c'est très important. Parce qu'il y a, dans l'idéologie Völkisch et nazie aussi, ensuite, il y a une exaltation de la nature, quoi. Et bon, probablement plus généralement, ça c'est pas seulement une spécificité allemande, mais une particularité genre de deuxième moitié du 19e siècle de faire des parallèles entre le corps social et la biologie, quoi. C'est-à-dire de considérer la société comme un arbre avec les branches pourries qu'il faut couper, qu'il faut se séparer. Beaucoup de métaphores qui viennent de la biologie. Et ça va beaucoup se poursuivre dans le nazisme, quoi. Avec la vermine, le juif comme parasite, du corps sain, toutes ces idées-là.
Je pense qu'on peut dire que c'est pas spécifique à l'idéologie völkisch, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce rapport à la nature, il est quand même distinct du rapport à la nature des autres nationalismes. Je pense notamment par le fait que, jusqu'en 1871 notamment, mais même au-delà d'une certaine manière, tant qu'il n'y a pas d'unification politique de l'Allemagne, forcément, la référence à la nature joue un rôle plus important. Dans le nationalisme français, bien sûr qu'il y a cette référence, chez Barrès, la terre de nos ancêtres, le culte des morts, la terre ne ment pas, le fameux mot du maréchal Pétain. Voilà, l'exaltation de la paysannerie, comme enracinée, le côté un peu anti-urbain, notamment, de l'idéologie völkisch. On le retrouve un petit peu dans l'idéologie de la Révolution nationale en France, et plus généralement de l'extrême droite, mais c'est sûr que ce rapport à la nature, même si on le retrouve dans tous les nationalismes, on le retrouve aussi dans le nationalisme états-unien, avec cette idée de la wilderness, de la nature sauvage, qui serait définitoire de l'identité états-unienne. Ce qui est particulier peut-être dans le nationalisme allemand, c'est que jusqu'en 1871, forcément, ce rapport à la nature, il joue plus fortement, proportionnellement, parce que en fait, il n'y a pas d'entité politique qui permette de définir ce que c'est que l'Allemagne. Donc, c'est sûr que cette idée d'une nature allemande, d'une communauté mystique allemande, elle joue forcément un rôle plus important. Et après, je pense qu'elle joue aussi un rôle plus important dans l'histoire allemande parce qu'elle va prendre le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que elle est déjà au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ça a quand même une influence relative, alors qui est principalement littéraire, en fait. Voilà, même quasi exclusivement, c'est des romans, völkisch qui exaltent la paysannerie, qui sont antisémites, on va y venir, qui exaltent voilà, le paysan enraciné, un paysan rude, dur, donc qui rappelle la vigueur, la force des guerriers germains.
Mais avec des grandes, grandes publications. En tout cas, moi, je suis souvent surpris aujourd'hui quand tu lis le nombre de tirages de ce genre de publications dans ces périodes-là. C'était beaucoup lu, quoi.
Ouais, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Ouais, c'est très important, ouais. C'est une influence principalement intellectuelle jusqu'à l'unification allemande. Mais malgré tout, ça participe, ça crée quand même une atmosphère culturelle qui fait que ce genre d'idée va commencer à se diffuser dans la paysannerie, la petite bourgeoisie, moins dans les milieux ouvriers, parce que bon, les milieux ouvriers, l'exaltation de la paysannerie,
ça ne parle pas trop. Et dans l'élite, quoi.
Et dans l'élite,
évidemment. C'est quand même un mouvement un peu élitiste, quoi, le mouvement völkisch.
Bien sûr.
Intellectuel, élitiste, quoi.
Très aristocratique, en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'ils ne vont pas vraiment réussir à constituer de mouvements de masse. Ça commence, disons, à la fin du 19e siècle, mais encore, c'est un mouvement de masse, mais seulement dans certaines sections de la population. Chez les étudiants, les professeurs, donc quand même malgré tout des gens qui sont marqués par un certain rapport à la théorie et tout. Il va y avoir quelques tentatives, donc il va y avoir le mouvement antisémite en Hesse dans les années 1880, qui va avoir un certain succès auprès des paysans.
Beaucoup de mouvements étudiants, oui, il y a les Bund, ouais, c'est genre les associations...
Il y a le mouvement de jeunesse qui est très important.
Et eux, ils déclarent déjà en 1900 très fièrement qu'eux, ils sont libérés des juifs en leur sein et tout ça, quoi. Donc dans ce genre d'organisation, c'est assez important, quoi, déjà.
C'est vrai que si on suit ce que dit Mauss, il y aurait d'abord une production intellectuelle principalement diffusée par le biais de la littérature et de journaux, mais qui ne sont pas encore très massifs. Ensuite, il y aurait ce qu'il appelle une institutionnalisation de l'idéologie, donc à partir de, bon, globalement, durant le Deuxième Reich, du coup, de 1871 à 1918, où l'idéologie völkisch va se transmettre massivement par le biais de l'école, en fait, et de l'université. Beaucoup de professeurs, d'étudiants, lui discutent justement du fait que, par rapport à la France, il y a une grosse différence dans l'orientation idéologique des étudiants et des professeurs. Parce que les professeurs en France sont plutôt républicains quand même. De facto, c'est des agents de la républicanisation de la société. La République est en conflit avec l'Église, notamment sur cette question-là. Donc on va dire qu'ils sont globalement plutôt radicaux, quoi. Enfin, radicaux au sens... voilà, ils sont centristes, républicains, un peu anticléricaux et tout ça. Et les étudiants... Alors les étudiants, bon, il faut... Je pense que Mauss exagère un petit peu, il y a quand même un fort milieu étudiantin d'extrême droite. L'Action française recrute massivement dans les milieux étudiants. Les étudiants dans les années 1930 sont des fervents acteurs de l'antisémitisme, de la xénophobie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'étudiants aussi qui sont attirés par les idées de gauche, les idées anarchistes. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, effectivement, on peut dire qu'il y a un peu plus d'étudiants quand même qui sont voilà, très portés vers voilà, une espèce d'exaltation nationaliste. Et là, je pense qu'il faut revenir à quelque chose dont on n'a pas tellement parlé, c'est que l'idéologie völkisch, au début, c'est une révolte contre la modernité, d'une certaine manière. Alors, ça ne veut pas dire que quand le nazisme arrive au pouvoir, ça va être le retour à la terre, la désindustrialisation et la sortie du capitalisme. Pas du tout. Mais au début, en tant qu'idéologie qui n'a pas pour l'instant de portée pratique, il va y avoir une révolte contre ce qui, finalement, altère la nation allemande, perçue comme une communauté mystique, cosmologique, avec une nature particulière. Et donc, ce qui altère cette nation allemande, c'est d'une part l'absence d'unification politique jusqu'au 1871, donc voilà, c'est la faute au congrès de Vienne, aux Français, etc., etc. Mais c'est aussi des bouleversements socio-économiques qui se mettent en place progressivement et puis qui vont connaître une accélération au cours du Deuxième Reich.
Mais qui est très tardive en Allemagne comparée à la France ou à l'Angleterre où ces mêmes bouleversements ont déjà eu lieu avant. Et comme ça se concentre sur une période plus courte historiquement, ben du coup, c'est pas seulement perçu, c'est en réalité des bouleversements qui se font très rapidement. C'est-à-dire d'une génération à d'autre, ou dans une génération, des pertes d'emploi, des restructurations économiques qui sont très douloureuses, mais qui sont très ramassées dans le temps. C'est une espèce de modernisation rapide que l'Allemagne va subir, quoi. Et ça, c'est un terrain propice à projeter les fautes de cette modernisation sur une partie de la population. Et c'est ça qu'on va trouver très fortement dans l'antisémitisme. Ça va être la modernisation rapide, ça va être la faute aux juifs, quoi, grosso modo, ou à la finance.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, la modernisation allemande, elle se fait plus rapidement qu'en France et qu'en Angleterre, la restructuration des campagnes particulièrement, parce que la restructuration des campagnes en Angleterre, elle se fait très tôt, donc c'est un processus un peu plus long qui commence voilà, déjà à la fin du XIVe siècle et qui s'étale jusqu'au XVIIIe. En France, finalement, les paysans vont réussir à garder la terre jusque assez tard, en fait, jusque tout le long du XIXe siècle. Donc bien sûr qu'il va y avoir des moments de durcissement, des antagonismes dans les campagnes en France. Mais ça va se faire par à-coup, dans certains secteurs, et jamais de manière généralisée. Alors que, effectivement, la paysannerie va être durement touchée en Allemagne par cette modernisation accélérée des structures. Ce qui va faire qu'un mouvement comme celui en Hesse dans les années 1880 va s'adresser massivement à la paysannerie en disant que la cause de leur déboire, c'est la modernité, et c'est la modernité portée par les juifs. Et ce qui va faire que cette idéologie va prendre relativement, c'est qu'effectivement, la figure qui fait l'interface avec le capitalisme du point de vue des paysans, ce sont donc les intermédiaires, ceux qui achètent les légumes, qui achètent les productions aux paysans, effectivement, ils sont en partie juifs. Et donc, d'une certaine manière, cette figure qui est seulement un des maillages et une personnification du processus de modernisation et de ses ravages, va finir par concentrer tous les ravages de la modernité, on va les assimiler aussi à l'industrie au début, ça va changer. Après,
pour l'intermédiaire dans les régions rurales, il faut aussi rappeler qu'il y a des faits historiques, il y a des raisons historiques tout à fait simples à ça, c'est que les juifs étaient interdits de posséder de la terre pendant très longtemps. Donc, par exemple, oui, dans les régions rurales en Allemagne, les juifs vont se trouver dans les positions de commerce, de maquignons, de commerce de bestiaux, et les paysans qui ont la terre, ça va être les Allemands. Et du coup, effectivement, les restructurations qui vont avec des baisses de prix, avec des difficultés économiques de survie, ben, ça va se focaliser sur le commerçant, qui était effectivement souvent juif.
Oui, ça, je pense que c'est intéressant de rappeler effectivement que même quand on peut voir effectivement des racines matérielles dans l'antisémitisme, en fait, ces racines matérielles, elles sont liées elles-mêmes à l'histoire de l'antisémitisme, en fait. Et qu'effectivement... l'antisémitisme va exclure en Europe de manière généralisée les juifs de la paysannerie. Et après, c'est une exclusion qui ensuite est plus ou moins large en fonction de l'ampleur du processus d'émancipation des Juifs qui va avoir lieu à partir de 1789. Et en Allemagne, c'est vrai que cette émancipation des Juifs, il faut quand même en toucher un mot, elle se fait principalement quand même seulement à partir de 1848, donc beaucoup plus tard qu'en France, où elle a lieu en 1789. Elle ne se fait pas de manière corrélative à l'unification politique, ce qui fait que en France, comment dire, la naissance de la nation française avec 1789 ne se fait pas en même temps que l'émancipation des Juifs, donc les Juifs sont encore moins assimilés d'une certaine manière à la nation allemande, mais sont vus comme, encore plus qu'en France, comme, même si en France il va y avoir ensuite des évolutions, et il faut quand même rappeler qu'en France, par exemple, au moment de la crise de des années 1840, il y a quand même aussi une identification des Juifs à l'émergence du capitalisme. Par exemple, chez Toussnel, qui crée un livre en 1844 qui s'appelle « Les Juifs rois de l'époque », où qu'on retrouve aussi une idée chez Proudhon, où les Juifs sont assimilés à la finance, à l'industrie, à la circulation, et même au début à l'industrie. Après, ça change très vite quand même sur l'industrie. Mais le mouvement Wolkisch, au début, est même opposé à l'industrie, en fait. C'est une opposition radicale à la modernité qui va se changer en une opposition contre ce qui ne serait pas allemand dans la modernité. Parce que l'industrie va finir par être considérée comme étant potentiellement bénéfique pour la nation allemande, donc exemptée, disons, de la critique Wolkisch.
Et puis, sur l'antisémitisme, il faut quand même aussi dire deux mots sur l'antijudaïsme en Allemagne, sur de l'Église, de Luther, qui, en 1530, va dire qu'il faut brûler les synagogues, qu'il faut très virulemment antijudaïque. Et même avant ça, dans les croisades, il y a eu des pogroms dans des villes comme Worms ou dans d'autres villes. Tout ça, c'est basé quand même sur une histoire assez longue aussi, quoi. Même si on sépare entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme, qu'on va dater genre à la deuxième moitié du 19e. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui vont être fondées sur autre chose, quoi. L'antisémitisme n'est plus fondé sur la même chose que l'antijudaïsme. Mais en même temps, dans l'assignation des rôles, il y a aussi des continuités. Voilà, comme on disait, il y a une raison pourquoi les Juifs ne possèdent pas de la terre en Allemagne. C'est parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en posséder. Donc, ils se trouvent dans le commerce. Ils n'avaient pas le droit de faire certains travaux. Donc, ils se trouvent dans les autres.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, cette histoire longue, d'une certaine manière, de l'antijudaïsme va aboutir au fait que les Juifs vont se retrouver dans les professions qui vont, à part pour certaines, émerger en fait avec la modernité. C'est-à-dire tous les milieux de la culture, le journalisme, la littérature, la finance, mais là c'est lié au fait que les Juifs ont été cantonnés historiquement à l'usure, parce qu'en fait la société chrétienne n'assumait pas en fait le prêt à intérêt, donc il y avait une partie des Juifs ou des étrangers parfois qui se chargeaient de ces prêts à intérêt. Et c'est sûr que ça va jouer un rôle important dans la structuration de l'antisémitisme moderne, dans tous les pays d'ailleurs, dans tous les pays. Et ça va faire que, effectivement, certaines catégories de la population vont être plus réceptives que d'autres à un discours antisémite. Donc les paysans qui ont affaire, disons, à des intermédiaires qui sont juifs, mais aussi beaucoup, et c'est là où l'idéologie Wolkisch va particulièrement prendre, c'est dans la petite bourgeoisie, où là, effectivement, la petite bourgeoisie allemande se sent concurrencée par la petite bourgeoisie juive, en plus avec des opinions politiques divergentes, c'est-à-dire que les juifs sont souvent associés aux libéraux, puis aux socialistes, alors que une partie de la petite bourgeoisie allemande est plutôt conservatrice, un motif encore supplémentaire, donc à la concurrence pour les postes, la lutte des places, et puis un antagonisme politique, et puis après également dans la grande bourgeoisie, où là, il peut y avoir aussi un antagonisme entre les capitalistes protestants et les capitalistes juifs. Donc l'antisémitisme a moins pris dans les milieux ouvriers, parce que l'idéologie Wolkisch, qui était porteuse de cet antisémitisme, n'avait pas grand-chose à offrir aux ouvriers. C'est-à-dire qu'il leur promettait qu'on allait retourner au Moyen-Âge avec les corporations d'artisans et tout, mais les ouvriers d'industrie, je pense qu'ils ne voyaient pas vraiment d'émancipation là-dedans, le retour à la terre non plus, le fait qu'on s'en prenne aux intermédiaires juifs, à la finance, c'est abstrait quand même. Donc il faut attendre, je pense, j'ai l'impression, des périodes de crise exceptionnelle, notamment financière, pour que là, les ouvriers commencent à être touchés un petit peu par un discours antisémite et Wolkisch de manière plus importante, quoi. Bon, après, ce qui est intéressant, sur les évolutions de l'idéologie Wolkisch, il faut quand même en dire un mot. Donc il y a quand même le passage d'une antimodernité radicale à une antimodernité sélective, qui va devenir en fait une antimodernité qui va s'attaquer non pas au cœur du capitalisme, donc la production de marchandises, de valeurs, d'argent, de profits, etc., mais plutôt à ce que parfois les marxistes ont appelé une espèce de superstructure, alors soit des superstructures idéologiques, entre guillemets, le libéralisme, le socialisme, le pacifisme, l'internationalisme, etc., etc., qui soi-disant seraient caractéristiques de la modernité, le cosmopolitisme notamment. Bon, beaucoup d'idéologies qu'on voit qui sont associées aux juifs, en fait. Et puis, d'autre part, à, entre guillemets, des superstructures financières. Voilà, la finance, le prêt, la banque, qui là, encore une fois, sont associés aux juifs. Et alors, il y a des raisons, je pense, bassement financières à ça, c'est que le mouvement Völkisch, pour être financé, quand il va vouloir se transformer en mouvement de masse, va aller chercher des subsides dans l'industrie allemande, notamment chez Krupp, qui va jouer un rôle très important. Et puis aussi, une raison qui est liée au fait qu'à partir de 1871, et bon, notamment la fondation en 1890 de l'association pan-germaniste, l'idéologie Völkisch va prendre un tournant expansionniste, avec bientôt l'idée du Lebensraum, de la nécessité vitale d'une expansion impérialiste en Europe et dans les colonies. Et évidemment, pour conquérir l'Europe et les colonies, il faut une armée puissante, donc il faut une industrie puissante. Donc, à partir de ce moment-là, l'industrie, si elle sert des buts pan-germanistes, Völkisch, ben effectivement, elle va être acceptée. Et c'est là où on va arriver finalement sur le rapport ambivalent à la modernité des nazis, qui finalement ne condamne de la modernité que principalement la finance associée aux juifs et les idéologies anti-allemandes, entre guillemets, également associées aux juifs.
Bon, je ne sais pas si tu voulais déjà en venir là, mais le mouvement Völkisch, il n'est aussi pas rentré dans son ensemble dans le mouvement nazi. Ça a certes préparé tout le terrain, mais en même temps, effectivement, il y a un côté élitiste dedans, ce qu'il n'y a plus chez les nazis. Il y a des côtés, il y a une partie des mouvements Völkisch qui n'ont pas suivi le nazisme parce qu'ils voulaient rester un mouvement élitiste d'idées, un cercle intellectuel sur la foi germanique et tout ça, mais qui trouvaient que la politique était bassement matérialiste, quoi, qu'il ne fallait pas rentrer dans ce genre de considérations tactiques et politiques. Donc il y avait une partie du mouvement Völkisch qui n'a pas suivi disons, le chemin du NSDAP quoi, ou du nazisme. Mais grosso modo, quand même, les grandes idées de... Et effectivement, aussi par rapport à la modernité. Donc, on va couper la modernité en morceaux et choisir celles qui sont les parties qui sont bonnes, avec une construction idéologique qui tient pas vraiment la route, mais qui était opérante. Parce qu'effectivement, le régime nazi a été un grand, grand, grand régime de modernisation. Autant au niveau de l'État, les congés payés en Allemagne, c'est les nazis qui ont démocratisé d'une certaine manière. Ils ont instauré une dictature aussi, mais ils ont aussi... C'était l'idée de l'accès à la santé, de l'accès aux vacances, des choses qui en France étaient faites sous le Front populaire, étaient faites en Allemagne au même temps par les nazis.
C'est en fait créer une espèce d'État social nationaliste.
Voilà, c'est un État moderne avec le côté d'État-nation, quoi, d'État social. Oui.
Qui sert aussi d'encadrement à la population. Parce ouais, qu'effectivement, et puis il y a l'idée aussi que si les Allemands sont en bonne santé, ça va faire des bons soldats, des bons ouvriers. Et puis effectivement, on leur donne les congés payés, mais on les fait bosser 50 heures par semaine. Donc, et c'est vrai que le nazisme a cherché voilà, à séduire aussi la classe ouvrière à travers ses congés payés, notamment en organisant une espèce de soi-disant de tourisme démocratisé, même si en réalité, les réalités de ce tourisme démocratisé sont...
C'était plus casernisé que démocratisé.
C'est ça.
Si on voit les bâtiments qu'ils ont faits, quoi. Parce qu'il en existe encore des espèces de bars de plusieurs kilomètres de long sur la mer Baltique, quoi, ce qu'on peut aller visiter aujourd'hui comme curiosité, quoi, mais... ressemblait plus à des grosses casernes qu'à des lieux de vacances.
On parlait donc tout à l'heure des transformations de l'idéologie Völkisch. Il faut revenir quand même sur la question du racisme. C'est-à-dire comment est-ce que l'idéologie Völkisch, qui au début se référait quand même à une espèce de communauté mystique, va devenir une communauté raciale, qui est définie donc par des traits particuliers, par voilà, une ascendance héréditaire, par une opposition entre un idéal esthétique... physique arien et un repoussoir esthétique et physique juif avec toute une série d'antinomies, la beauté arienne, la laideur juive, puis après ça va même ça va avec des qualités morales, mais finalement toutes ces qualités morales ne découlent plus d'une espèce de d'âme allemande, mais carrément même d'une biologie allemande. Et ça, c'est sûr que ça joue quand même un rôle, même dans la radicalisation de l'antisémitisme, parce que chez certains penseurs volkisch assez précoces, il y a encore cette idée que bon, certains juifs éventuellement pourraient s'assimiler, pourraient faire partie un petit peu de cette communauté mystique. Et au fur et à mesure du temps, plus ça se racialise et ça se radicalise, plus l'antagonisme entre les juifs et les allemands devient un antagonisme absolu, un antagonisme de valeur, un antagonisme de qualité physique, un antagonisme qui va en fait vers cette idée de guerre des races, de lutte des races, qui est un concept central dans l'idéologie volkisch de la fin du 19e siècle.
La souillure de la race, et ça va se poursuivre dans tous les lois de Nuremberg, dans les lois raciales et tout ça. On trouve ça d'ailleurs aujourd'hui aussi encore dans l'extrême droite identitaire allemande, en tout cas. Il ne faut pas dissoudre la race. Ce qu'ils acceptent fondamentalement pas, c'est le multiculti, l'idée qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse se mélanger.
C'est une forme d'ethno-différentialisme, oui. Qui est effectivement une forme reconfigurée du racisme d'extrême droite. On a connu la même tendance en France avec la nouvelle droite, notamment, qui est plus allée vers cette idée-là qu'il faut pas se mélanger.
Chacun dans sa communauté.
C'est ça.
Ça, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas les mélanger.
C'est ça.
Ça, c'est dans le mouvement d'extrême droite allemande aujourd'hui, il y a très fort.
Là, on parle de l'idéologie volkisch en général, mais il y a plein de raffinements, de différences et tout. Et effectivement, il y a des idéologues volkisch qui sont moins antisémites que d'autres. Il y en a qui sont déjà exterminateurs, d'autres qui sont assimilationnistes. La majorité étant pour une exclusion assez radicale quand même des juifs de la société allemande.
Oui, c'est des choses qui sont déjà écrites en 1870, en tout cas dans la deuxième moitié du 19e. Des publications qui revendiquent qu'il faut exclure les juifs de l'Allemagne. C'est quand même quelque chose qui se discute déjà quoi, comme idée. On peut l'écrire et on peut le penser et le dire.
Alors peut-être assez rapidement, il faut dire donc l'idéologie volkisch va se diffuser massivement dans la société allemande, particulièrement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec cette idée que s'il y a eu une unification politique de l'Allemagne, il n'y a pas eu d'unification culturelle de l'Allemagne. Mmh. Et une unification culturelle qui repose sur une diffusion dans la jeunesse de l'idéologie volkisch et aussi sur la construction d'un corps étranger, figure étrangère à la nation allemande, qui sont principalement les juifs. Mmh. Et après, globalement, ce qu'on peut dire quand même, rapidement, avant de passer sur la question des racines intellectuelles de Mein Kampf, c'est que, globalement, il va y avoir une première massification d'idéologie volkisch avec la défaite de l'Allemagne. Donc dès 1916, dès que le vent commence à tourner pour l'armée allemande, il va y avoir la création du Parti national de la patrie allemande qui va devenir le premier parti volkisch de masse, très antisémite, qui va rendre responsables les juifs de la défaite. D'abord des compromissions, des tentatives de paix, et puis ensuite de la défaite allemande. Et il va y avoir aussi, donc dans ce parti, donc le DNVP, une influence de masse. Hein, le parti va quand même atteindre jusqu'à 6 millions d'électeurs. Donc c'est le premier parti volkisch de masse. Et l'ascension du DNVP là, va aussi marquer le ralliement de la droite conservatrice à l'idéologie volkisch. C'est-à-dire que pour la première fois, il va y avoir un parti conservateur de masse qui se rallie massivement à l'idéologie volkisch et qui va se radicaliser tout au long de la période entre 1918 et 1933, qui va devenir de plus en plus antisémite, l'antisémitisme passant de thèmes relativement secondaires et locaux à des thèmes centraux de sa propagande, jusqu'à finalement exclure en fait complètement les juifs du parti. Bon, finalement, c'est un parti qui va se faire doubler en fait par le national-socialisme, mais néanmoins, il faut quand même dire que ce premier parti de masse volkisch, il va avoir un rôle important dans la diffusion de l'idéologie volkisch et il va préparer le terrain idéologiquement au national-socialisme. Donc voilà, on peut voir que au moment où Hitler va commencer à écrire Mein Kampf donc en 1923 en prison après l'échec de son putsch, l'idéologie volkisch antisémite, nationaliste, raciste a déjà pénétré en profondeur une partie importante de la bourgeoisie, de la classe moyenne, de la paysannerie. et ce, avec une accélération à partir de la défaite de l'Allemagne en 1918, qui va favoriser un ressentiment nationaliste extrêmement fort, avec l'idée que c'est un coup de poignard dans le dos qui a été infligé par la République, le libéralisme, les Juifs, etc., à une armée allemande en fait invaincue. Il va y avoir également la menace révolutionnaire, parce qu'il y a quand même une révolution en Allemagne en 1918 avec les Spartakistes, et puis également avec voilà, les conseils ouvriers, et puis la République des conseils de Bavière, donc qui va favoriser la diffusion de l'idéologie Völkisch dans la petite bourgeoisie et la bourgeoisie conservatrice. Il va y avoir également un contexte voilà, qui est propice aussi à des tentatives de prise de pouvoir autoritaire, d'ailleurs le putsch de Kapp en 1920, Kapp qui est très proche de l'idéologie Völkisch, bon, un putsch qui va échouer par une grève générale ouvrière. Enfin, ça montre bien que voilà, l'idéologie Völkisch voilà, commence à avoir un impact politique réel au début des années 1920. Et puis, voilà, ça va évidemment prendre une proportion toujours plus importante au cours des années 20, avec la crise d'hyperinflation de 1923-1924, avec l'occupation de la Ruhr en 1923, qui canalise une haine anti-français, qui se lie aussi à une haine de la République de Weimar, des Juifs, etc. Et on parlera, voilà, dans une deuxième partie de cette émission, voilà, des racines intellectuelles de Mein Kampf, en revenant un petit peu en arrière, et en montrant aussi ce que l'idéologie nationale-socialiste, en tout cas telle qu'elle est formulée par Hitler, aussi par Rosenberg, dont on va parler, ce qu'elle a de différent, de spécifique par rapport à l'idéologie Völkisch, mais aussi évidemment les continuités qu'il y a entre les deux idéologies.
Questions feed the pain. Emptiness is what I-